amplifier votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview depuis le show Intergalactique. Je suis avec the one and only Alison Marek, direct, straight from the UK, voilà, avec mon délicieux accent british. Alison, comment est-ce que ça va?
Bah, ça va très bien. Tu dis plus comment ça va bien?
Ouais. Ah, bah, Alison, comment est-ce que ça va bien alors?
Bah, ça va très bien du coup. J'attendais, moi je suis venu que pour ça.
Non mais c'est le con, maintenant il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, non mais tu le dis tout le temps, c'est relou », puis maintenant les gens attendent, donc voilà, je suis piégé maintenant, que je le dise ou que je ne le dise pas, ça va pas. Je pense que la dernière fois qu'on s'était croisés, voyons voir, on est en mars 2020, je me demande si c'était pas tout simplement au Café de la Danse, ce super concert au Café de la Danse en 2018, n'est-il pas?
Ça fait déjà 2 ans, ouais, bah c'est, ouais. C'est fort probable, hein, ouais. C'est fort probable, on n'a pas dû se croiser depuis.
Quoi de neuf depuis alors?
Ouf, tellement de choses. Alors depuis, on est parti, on était déjà en Belgique au moment du Café de la Danse, on s'était installé un petit peu pendant quelques temps à Bruxelles. Ouais. On y a sorti du coup l'album, on a fait le Café de la Danse, ensuite on a sorti un single l'année dernière, acoustique de Drifting Ashore, de notre, du titre de l'album.
C'était une version live, c'est ça?
Qui était une version live enregistrée chez François Charles, qui est maintenant chez Jérôme Casanova, mais qui était enregistrée à l'étage dans la boutique, avec nos comparses Julien Grattard, Pierre-Marie Baumier et Benoît Martin, qui étaient avec nous, et filmé par Amélie, et enregistré par Rodolphe. Ouais, j'ai crédité tout le monde.
D'accord. Une vraie pro, attention, venez pas vous plaindre après.
Voilà, hein. C'est bon, tout le monde est bon. Il y avait Étienne aussi, mais il n'est pas là, mais il était dessus, il a joué la guitare. Voilà, et du coup... Entre-temps, voilà, on a sorti ce single et là, on est parti nous installer à Londres en septembre dernier.
Ouais. C'est à cause de ça qu'il y a eu le Brexit, en fait.
Oui, c'est parce qu'on est venus, ils se sont dit, non, merde, faut, que ça,
faut
qu'on
on les... On n'en veut plus, des comme ça, faut arrêter.
C'est une cata. Alors, c'est à cause de ça qu'on va sûrement rentrer d'ici quelques temps, nous installer sur Paris, parce qu'on a besoin de retrouver nos amis, notre public, le vin, le saucisson.
Les fromages qui puent.
Pardon, mamie, mais oui, le saucisson. Voilà, les fromages, bah, les fromages tout court. Enfin, voilà, donc on pense certainement voilà, revenir dans les mois qui viennent s'installer dans la capitale parisienne.
Et vous étiez allé faire quoi au UK, à Londres?
Bah, on avait envie de continuer à développer le projet, faire avancer un peu les choses là-bas, découvrir une autre culture, voir un peu, se confronter un peu à la scène anglaise et voir comment ça se passait et comment le projet marchait. Mm-hmm. On a fait pas mal de concerts, on est très contents du résultat, les gens ont vachement accroché. On y a enregistré notre nouveau single qui sort le 20 mars et on est super fiers d'avoir fait ce petit souvenir londonien là-bas avec le clip qui sortira le 24. Mm-hmm. Voilà, c'était une super expérience. C'est bien de... Enfin, nous, on fait que bouger depuis 5 ans de façon entre...
Paris, Canada,
New York, le Canada, la Belgique. Et là, on commence à se dire, ça y est, c'est bon, on a fait le tour de la question. On a envie de revenir au Vercaï. Et voilà, je pense que ça va être... Puis surtout de refaire des concerts dans le coin et refaire des concerts sur Paris, revoir les gens qui nous suivent depuis le début et pouvoir refaire de la musique tous ensemble. Quoi.
Est-ce que la scène musicale, elle est très différente à Londres versus ce que tu connais à Essay, ce que tu connais à Paris?
Bah, finalement, pas autant que ce que j'aurais imaginé, en fait. Elle est assez éclectique, très éclectique. Bon, bah, elle est assez éclectique comme ici, en fait, parce que finalement, à Paris, il y a des échantillons très larges de différents styles musicaux, en fait. C'est ce dont on se rend compte en bougeant. Mm-hmm. Elle est super active, il y a plein de choses, il y a plein de concerts, plein de trucs. Elle paye moins bien. N'allez pas en Angleterre si vous voulez gagner de l'argent.
En plus, le coût de la vie coûte un bras à Londres.
On ne cache pas que ça fait partie des raisons pour lesquelles on rentre. Quoi. Donc, c'est plus compliqué au niveau des paiements. Par contre, l'accueil est très cool. Ça fait 7 mois qu'on est là-bas. Je ne peux pas dire...
Ouais, mais tu as travaillé en tant que musicienne des deux côtés.
Ouais,
donc
voilà, on a joué là-bas. Non, ce que j'allais dire, c'est que l'accueil est peut-être un tout petit peu moins pro que ce qu'on a eu à New York. Par exemple, d'accord, où on était vraiment super mal payé, voire quasiment pas payé pour les concerts. Mais par contre, on était accueillis comme des artistes voilà, d'office, ah ouais. Même dans des bars, même dans... et on avait des retours, et on a des retours, quoi, on s'entendait chanter, enfin, c'est un truc qui n'existe pas.
Mais je m'entends chanter, mais alors, c'est ma voix.
C'est un truc qui n'existe absolument pas sur la scène parisienne, dans les bars, enfin, c'est super rare. Donc on avait ça, on avait du bon matos. À Londres, on avait aussi du bon matos et tout, peut-être un peu moins qualitatif qu'à New York, mais déjà, voilà, un peu mieux que ce que tu trouves dans la majorité des bars parisiens quand tu vas, ou des cafés-concerts, quoi. Mmh. Ça, c'est vachement agréable. Et ça joue de partout, les gens sont très talentueux, il y a beaucoup de monde, c'est super agréable. Mmh. Voilà, le studio où on a eu la chance d'enregistrer le nouveau single, qui s'appelle The Bookhouse Studio, qui est dans le sud de Londres, à South Bermondsey. C'est un studio hyper joli que vous allez voir sur le clip, parce qu'on a juste filmé une petite vidéo directement là-bas. Et tenu par un Américain et un Anglais, et qui ont un super matos, mais simple, hein, mais ouais. Juste classe. Et c'est super, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits comme ça. Mmh. Donc c'est surtout au niveau de la culture qu'on ressent une différence, culture D'accord. musicale. Voilà.
Parle-moi d'un truc que j'ai vu passer sur ton flux Instagram. Tu avais fait des reprises de Billie Eilish, je ne me trompe pas.
C'est vrai.
Et moi, Billie Eilish, je suis complètement passé à côté. je t'avoue même que j'ai réessayé d'écouter ça la semaine dernière, parce que je ne sais plus qui parlait de Billie Eilish. Je me dis, bon, bah, attends, je ne comprends pas, je n'ai pas capté, il faut que j'écoute. Donc je me dis, bah, tiens, là, j'ai Allison. Tu avais fait des reprises, c'est ça? Tu avais fait toute une série de reprises. Ouais. Donc explique-moi ce que je n'ai pas compris sur Billie Eilish.
En fait, alors heureusement qu'Étienne n'est pas là quand tu me poses cette question, parce qu'il nous aurait fait 46 grimaces. Il a fallu que je le soudoie pour qu'il joue avec moi sur les vidéos. D'ailleurs, il en a fait, je crois, il y en avait 12. Il a dû en faire un peu moins de la moitié, peut-être un ouais. peu plus de la moitié. C'est tout ce que j'ai réussi ouais. à lui soutirer.
Sous la menace.
Sous la menace, ouais, ouais, vraiment. Sinon, il n'avait pas à manger le soir. C'était tu joues la chanson ou tu manges pas, quoi. Mais écoute, moi, Billie Eilish, c'est une gosse, parce que j'ai 30 ans et elle en a 18,
ouais.
qui m'a vraiment touchée, quoi. Il y a ouais. un truc. Alors, elle est complètement barrée. Mmh. Au niveau look, style, c'est pas du tout ma cam, je comprends pas forcément. Moi, je suis vieille, quoi. Elle a 18 ans, c'est des trucs que même ma soeur qui a 20 ans, elle comprend pas non plus. Mais j'adore son individualité. On en parlait tout à l'heure par rapport à la plateforme Groover, mais j'adore son individualité. Elle a un truc, elle se fout de tout et elle fait ce qu'elle veut. Et surtout, musicalement, il y a une belle histoire. Elle fait tout avec son frère.
Ouais.
De ce qu'on nous dit, hein, moi j'ai vu pas mal d'extraits de chez eux, de là où ils habitent, chez leurs parents. Ils ont été. Comment on appelle ça, en scolarisation à la maison, à domicile, quoi, avec leurs parents. Et donc, du coup, ils ont fait que de la musique depuis qu'ils sont petits. Et je pense, je suis assez certaine qu'ils ont vraiment cette histoire-là, quoi, qu'ils ont vraiment développé le truc tout seul. Les parents, bon, bien sûr, ils habitent à LA, ils sont acteurs, ils avaient des contacts, mais il y a un truc, il y a un vrai truc. Voilà, elle écrit des textes que je trouve cool et que je trouve bien écrits, dans un environnement musical actuellement qui est. Où c'est vraiment ça vole très bas, quoi. Je veux dire, moi qui suis passionnée vraiment par les textes, qui suis fan de Sting et d'auteurs comme ça, quand je vois j'écoute ou que je lis la plupart des textes, je suis un peu effarée. Et cette jeune fille et son frère, ils ont vraiment des trucs, quoi. Ça sonne, c'est écrit dans le bon sens. Musicalement, ça ressemble à rien de ce qui se fait. Donc,
ça ressemble à rien dans le bon sens, quoi.
Dans le bon sens, ça ressemble à rien de ce qui se fait. C'est complètement inédit. Et j'adore leur son. Alors moi, on est très acoustique avec Étienne, mais j'aime beaucoup les prods. Moi, les bonnes prods, je trouve ça super. J'ai beaucoup de guilty pleasures. J'écoute aussi bien du Ariana Grande que du Christina Aguilera, que des trucs que du Kelly Joe Phelps à l'acoustique. Enfin, j'écoute de tout. Moi, du moment que ça me touche, j'adore. Et justement, bah, au niveau des prods, ils utilisent des sons qui sont vachement organiques. Ils utilisent des vieux Moog, ils utilisent des vieux synthés, des trucs. Et du coup, t'as des trucs... Voilà, moi, ça me parle vachement. Après... ça parle pas du tout à tout le monde, mais même Étienne a reconnu qu'elle avait du talent récemment. Il m'a dit non, mais elle chante super bien. Ouais, tu l'as vu dans les lives, elle chante, mais c'est.
Alors j'ai pas vu les lives, mais j'ai juste écouté l'album. Alors... C'est vrai qu'elle a un joli brin de voix. Enfin, pas joli brin de voix, c'est péjoratif. Elle a une belle voix, quoi.
Bah, ouais. En fait, elle chantait sur ses premiers albums vachement plus en pleine voix,
ouais.
Et elle a trouvé un truc je pense, ce qui a fait son carton, en fait, c'est qu'elle a trouvé un endroit dans sa tessiture qui est super rare, que personne n'utilise, enfin peu de gens utilisent en tout cas, et donc elle chuchote tout le temps, en fait, elle chante tout doucement, ce qui insupporte Étienne complètement, mais que moi j'aime beaucoup et qu'apparemment beaucoup de gens aiment beaucoup aussi. Et elle a ce côté comme ça, ce brin de voix, c'est vraiment un brin de voix, c'est un filet de voix comme ça, mais elle a de la patate aussi, quoi. Elle en a vraiment sous le capot et elle chante et surtout elle est une justesse les trois quarts du temps en live. C'est parce que tu me dis ça chante bien sur l'album, mais n'importe qui peut chanter bien sur les albums maintenant.
C'est pas faux.
N'importe qui. Et elle, ce que j'ai kiffé chez elle, c'est qu'il y a une honnêteté, il y a un truc, tu l'écoutes en live, ça sonne, elle a une énergie de ouf. Voilà, bon, je vais faire l'apologie de Billie Eilish, mais je trouve ça cool qu'il y ait ce renouveau-là dans la scène musicale, en espérant que ça parte pas de Traviole plus tard, que ça reste vraiment cool. Mais pour le moment, voilà, je sais pas si t'as écouté le morceau qu'elle a fait pour le nouveau James Bond.
Non, pas du tout. Non.
C'est elle et son frère qui ont fait le titre phare du film. Mmh. Et ils ont fait un live au Brit Awards, je crois, où ils ont joué le morceau avec un symphonique derrière et tout. Et c'est méga classe.
Là, comme ça, à froid, on n'a pas du tout répété ça. Tu peux me faire un petit morceau de Billie Eilish, là, comme ça là
Ouais, je peux. Je peux faire un petit bout. Il faut juste que je me rappelle les accords. Attends deux secondes.
Le problème, on n'a pas du tout répété ça. Hein. Et là, je peux pas t'aider pour les accords. Hein. Donc, alors, sans répétition aucune, c'est parti. Pas une improvisation. Billie Eilish, c'est quoi que tu vas nous chanter?
Une chanson, c'est ma préférée, je pense, qui s'appelle « Listen Before I Go ».
D'accord.
Et qui parle de... Je ne veux pas dire ce qu'elle parle, non, ça parle de suicide.
C'est gay, merci, sympa.
C'est pas super gay, mais c'est vachement beau et j'aime bien. C'est joliment amené, on va dire.
Vas-y.
Take me to the rooftop. I wanna see the world when I stop breathing, turning blue. Don't say love is endless. Don't be so pretentious. Leave me like you do. If you need me, wanna see me, you better hurry.
Écoute, je pense qu'il faut que je me repenche sur Billie Eilish, juste comme ça, guitare-voix, c'est très très beau, effectivement.
Merci. Mais c'est pour ça que je voulais faire ces reprises, parce que, bon, déjà, on voulait faire un truc pour Noël, on voulait faire un truc sympa, qui ne soit pas des chansons de Noël non-stop. Et il y a une variété de titres différents, ouais, et de mélodies différentes et de compos dans ces chansons que je trouve vraiment cool, je voulais montrer.
D'accord. Voilà. Alors ça me donne une transition toute trouvée, donc tu as évoqué déjà plusieurs fois ce single qui va sortir le 20 mars, qui est une composition à toi, c'est ça,
ouais,
ou une coproduction?
C'est toujours Étienne et moi, là pour le coup ça dépend des fois il y en a un qui est à l'initiative du morceau, des fois c'est l'autre, là c'était moi pour le coup. C'est un morceau que j'ai écrit le soir de la grosse tempête, là, que c'était il y a combien de temps, il y a un mois et quelques, non? On s'est pris deux tempêtes d'affilée.
Ouais. Il fait toujours beau à Paris, hein, par rapport à Londres. Hein.
Ouais. Si tu veux. Non, c'est vrai qu'il fait meilleur. Il fait relativement. Moi, j'étais tout le temps en train de dire ouais, non, mais tu verras, l'Angleterre. Moi, à chaque fois que je vais à Londres, avant de déménager là-bas, à chaque fois que je vais à Londres, j'ai toujours eu du soleil. J'ai toujours aux gens, attends, moi, j'arrive à Londres, il fait beau, quoi. Ouais. Alors, par contre, quand tu restes 7 mois là-bas, il fait pas aussi beau que ça. Donc, j'ai vite déchanté. Mais ouais, donc j'ai écrit ce morceau pendant ce soir de tempête, là. Et ce genre de chanson qui tombe tout seul comme ça, que t'as l'impression que comme avait dit Sting, avait dit ça dans une interview une fois, qu'il y a des morceaux comme ça, t'as l'impression qu'ils sont pré-écrits,
ouais,
et qu'on est juste le réceptacle du truc, qu'on est juste là pour les... Ça fait très prétentieux ce que je suis en train de dire, mais je veux pas surpousser la chanson, mais en tout cas le process de l'écriture était comme ça, quoi. C'est vraiment une chanson qui s'est écrite très vite.
Et donc texte et musique, ou comme ça? Ouais,
non, texte et musique. D'accord. Avec la guitare, j'ai trouvé le petit arpège de guitare que j'ai joué en intro de l'interview, comme ça, et ensuite le texte est venu très très vite, en fait, très rapidement. En général, moi j'écris le texte et je compose la musique en même temps, en parallèle, en fait. Je commence par un truc de guitare, souvent, majoritairement je commence par la guitare, après j'ajoute un petit bout de texte. En général, je compose un truc qui me fait le couplet, je passe sur le refrain, j'écris un bout de texte. Je continue deuxième couplet, j'écris un bout de texte. Enfin, je fais pas toute une musique et après je pose un texte dessus. Ça, c'est quasiment, ça n'arrive quasiment jamais. Et parfois, je commence par un bout de texte et après, je mets de la musique, mais c'est toujours... quoi, je vais avoir trois phrases que j'ai envie de mettre en musique, quoi. Mmh. Ce sera jamais...
Et là, tu parles d'une chanson donc, qui est venue visiblement assez rapidement, mais à quel moment tu sais que la chanson, elle est terminée, elle est prête à être enregistrée?
Ça dépend des morceaux. Ouais. Ça dépend complètement des morceaux. Celle-ci, j'ai composé premier couplet, refrain, on va dire, le premier soir. J'avais, comme c'est une chanson qui est basée complètement sur les harmonies vocales, j'avais besoin d'Étienne qui n'était pas là. Donc j'attendais qu'il arrive. Donc moi j'enregistre et je fais mes propres harmonies sur mon dictaphone pour voir un peu ce que ça donne et pour écrire les parties. Et tant que j'ai pas Étienne à portée de main pour avoir son timbre de voix et sa tessiture, je peux pas savoir à quel point ça va marcher ou pas en fait. Donc je suis un peu comme ça en attendant, en me disant est-ce que ça colle, est-ce que ça matche ou est-ce que ça matche pas. Et le lendemain en fait, j'ai écrit la suite, le deuxième couplet, le deuxième refrain. Et après t'as des morceaux qui, alors peut-être que c'est de la feignantise de ma part, je sais pas, mais t'as des morceaux comme Feathers, on n'a jamais voulu écrire plus. On n'a jamais fait un pont. Bah, c'est très courte la chanson, elle fait 3 minutes 5. On n'a jamais voulu faire un pont, on n'a jamais voulu ajouter d'autres instruments. C'est une guitare et deux voix. Et le morceau tout seul, on sentait que c'était ça qu'il fallait. Quoi. Je ne peux pas l'expliquer. Mais... Et pour In Spring, ce single, en fait, on a fait les deux couplets de refrain, un solo de guitare et une fin un peu travaillée, mais on n'a pas voulu rajouter autre chose. Et en fait, c'est principalement parce que j'essaie d'écrire des textes qui racontent quelque chose. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'ai tout dit.
D'accord.
Tout simplement.
C'est une autre histoire. Réécoutez la chanson.
Voilà. Mon père m'a dit ouais, t'aurais pu rajouter. Je dis non, parce que j'ai rien d'autre à rajouter.
La tempête était terminée, voilà.
Ouais, non, mais je raconte un truc et je parle d'un thème. Et si je rajoute un couplet en plus ou si je rajoute un pont, je vais tourner en rond sur mon thème. Là, j'ai touché les points que je voulais toucher et c'est comme quand t'écris un bouquin et qu'il faut s'arrêter. Quoi. Il y a des fois des trucs. Moi, j'estime que certains textes, il faut savoir s'arrêter, sinon tu le sens de toute façon, moi je le sens. J'écris un couplet, je sens quand un couplet il est fort ou quand un couplet il est... Il est là, mais il ne sert pas à grand-chose. Quoi. Mmh. Voilà.
Et quel est le regard, enfin, le travail avec Étienne à ce moment-là, à part que tu le fais chanter, etc., et que tu le fouettes jusqu'à ce que ça soit bien, ce qu'il dit, oh ouais, bon ça, bon, je ne suis pas serrure, ou tiens, pourquoi on ne ferait pas ça? Ou tu dis, non, moi c'est ça que je veux, voilà.
Non, il y a quand même une... Alors, c'est toujours des engueulades. Ouais. C'est dès qu'on parle musique, dès que... voilà, c'est pas pour rien que j'ai jamais pu prendre un cours de guitare avec lui, alors que j'ai un prof à la maison, à domicile, mais c'est impossible. Parce
il y a le niveau, on peut dire.
Ouais. C'est impossible, on se prend la tête systématiquement. C'est-à-dire, on peut ne jamais se prendre la tête pendant 6 mois, on va commencer à faire de la musique ensemble, et c'est mort. Mais c'est normal, c'est des égos. Voilà, on est quand même...
Le melon, quoi, les deux melons.
Les deux melons, les gros melons, quoi. Tu me dis pas ce que je dois faire. Non, ça va, mais il va être content quand tu vas voir l'interview.
Il est habillé pour l'hiver. Non,
merde, j'aurais pas dû la laisser toute seule.
En plus, non. Elle est à Paris, elle joue avec ma guitare, parce que ça, c'est une guitare qui a appartenu à Étienne, que François a racheté, et donc il m'a gentiment prêté. Et donc, quand j'ai dit à Alison que j'avais la guitare, il m'a dit ouais, bien sûr, on fait la vidéo avec.
Ah ouais, carrément, moi je suis trop content de la retrouver. Non, mais en vrai, Étienne, sans vouloir lui jeter des fleurs, ça part du boulot, quand c'est notamment quand le morceau vient de moi à la base.
Ouais.
Il crée la chanson, il rend la chanson réelle.
D'accord.
C'est-à-dire, je compose un truc.
C'est-à-dire
je compose un truc avec mes niveaux de guitare qui sont basiques.
Ouais.
Donc j'écris ce truc-là. Là.
Un peu modeste quand même, parce que tu joues sur scène, tu joues en studio, quoi.
Je veux dire, moi, j'ai pas les capacités d'arrangement que lui va avoir. C'est-à-dire que moi, je reste là.
Ouais.
Je vais là quand je joue du jazz un peu. Je vais aller chercher ces accords-là, mais je fais pas de chorus, pas encore, j'arrive. Mais j'ai pas autant de possibilités. J'ai pas autant de capacités, loin de là. Donc. Moi, je compose mon truc, je fais ma petite ritournelle, donc je fais des bonnes mélodies, et je fais ma petite mélodie avec mon petit truc comme ça. Et ce morceau-là, notamment, Étienne, il a... Alors, le morceau, moi, j'avais mon arpège, mon truc.
Il a fait une deuxième voix, une deuxième guitare.
Il a fait un contre-champ, un vrai contre-champ qui... Mais littéralement, il joue pas du tout la même chose que moi, il fait pas du tout de fioritures, alors il fait un solo après, mais il fait un contre-champ complet, c'est-à-dire qu'il joue un truc qui contrebalance complètement ce que moi je joue, et qui crée la chanson, littéralement. La chanson n'est pas la même et n'existe pas sans sa guitare.
D'accord.
Ça n'a rien à voir.
Bon, voilà. Bah c'est bien, donc on a hâte d'écouter ça. Moi j'ai déjà écouté une fois, donc ça sera le 20 mars. Et il y aura d'autres morceaux derrière, c'est ça?
Alors il y a le clip qui sortira le 24 mars, juste derrière. Et pour d'autres morceaux, en fait, on a décidé, donc avec le changement de nom du projet, enfin le changement de nom, le retour aux sources, on va dire, en utilisant nos deux noms, on a décidé de sortir des singles un peu au compte-gouttes, comme ça se fait pas mal maintenant grâce aux plateformes de streaming, parce qu'on a un distributeur digital, on leur envoie le morceau, on se trouve des studios, voire même peut-être qu'à terme on fera ça en home studio aussi, parce que bah, deux guitares de voix, c'est quand même relativement... avec des bons instruments et du bon matos d'enregistrement, on peut faire des choses très cool. Et moi, j'aime bien travailler l'enregistrement aussi et me reperfectionner là-dedans. Donc, on va sortir des trucs au compte-gouttes. Il y a des compos.
D'accord.
Il y en a qui sont en réserve. Et on va les enregistrer au fur et à mesure et les sortir au fur et à mesure.
Okay.
Voilà. Ce ne sera pas dans l'optique d'un album. Ou... Et peut-être qu'après, on classera tout ça sous un EP, par exemple, ou sous un album, si on a un fil conducteur et une histoire à raconter. Mais ça correspond bien parce qu'on est dans une phase où on a des morceaux qui sont dans des styles assez disparates, donc qu'on aurait eu du mal à mettre sous la même enseigne. Quoi. Ça se dit pas trop, mais sous le même truc. T'as compris. Voilà.
D'accord, très bien. Il y a aussi autre chose. Tout le monde va croire que je te stocke en fait sur Instagram. Et je
stocke aussi, t'inquiète. Je suis au courant de tout ce qui se passe à la chaîne guitare. Je suis tout.
Bon, bah ça va, on se stocke l'un et l'autre. Tout va bien. J'ai vu surgir une très belle 335 blonde il y a quelques temps là, mais enfin c'est comme Bob Dylan qui se met à l'électrique, Alison Marenck se met à l'électrique, c'est ça?
Bah, en fait, moi ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, avant de rencontrer Étienne, en fait, moi je jouais sur télé.
D'accord.
J'avais une Télécaster blanche, tu vois comme quoi c'était. J'avais une Télécaster blanche de très mauvais goût avec un binding noir et une plaque noire que Étienne trouvait horrible quand il m'a rencontré. Mais quand je l'ai connue, j'avais encore cette télé en fait, que je m'étais achetée avec mon petit crédit étudiant à 0% après avoir acheté une acoustique. Et quand je voulais me mettre à l'électrique, je jouais avec ça, pardon les guitaristes, mais j'avais un pod. Non, pas un pod. Une espèce de multi-effet là, dégueulasse.
Un zoom peut-être, non?
Peut-être bien un zoom. Est-ce que c'était un zoom? C'était peut-être un zoom. Un truc. Oui, c'était un zoom.
Ouais.
Un truc horrible, quoi. Et je faisais
la première génération faisait un peu mal aux oreilles.
Ouais. Ouais, parce que c'était il y a. Je te parle de ça, c'était il y a 8 ans, 7-8 ans, un truc comme ça. Et je faisais de la soirée privée avec ça et je me branchais en direct dans la table dans mon zoom. Et j'essayais tous les boutons pour essayer de faire des sons et c'était catastrophique. Et évidemment, j'avais pas du tout un jeu d'électrique. Je jouais de la guitare acoustique avec la télécaster. Enfin bref, c'était une cata. Donc je l'ai vendu. j'ai plus retouché une électrique depuis parce que ça me fait très peur parce que j'ai développé un jeu très rythmique avec Étienne surtout qui m'a fouetté et tout ça. Non, pas littéralement, mais voilà. Je me suis mise à. Voilà, j'ai travaillé vraiment un jeu très rythmique, très percussif, j'ai vraiment fait mon jeu et mon son et que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, c'était très délicat pour moi de repasser sur une planche, quoi. Littéralement une planche, parce que tu as aussi une question d'épaisseur, une question de corde, de résonance. Voilà, ça me faisait flipper. Sans compter les sons, les pédales. Et, moi, j'y connais rien, quoi. Bon, je commence à connaître un peu avec Étienne, mais je suis très loin. Et j'ai eu 30 ans en novembre et j'ai flashé sur cette guitare. Je me suis dit, je vais m'acheter une gratte pour mes 30 ans. Et j'ai tourné un peu, on était à Paris à ce moment-là, et j'ai tourné Pigalle et tout, et je suis tombée sur cette gratte. Et moi, j'ai toujours adoré les 335 parce que pour moi, il y a un côté vachement polyvalent. Bon, c'est une des guitares les plus polyvalentes, ça se sait. Mais c'est surtout qu'il y a un côté très acoustique dans cette guitare, avec le côté demi-caisse. Elle a un manche énorme comme ma Martin, donc vraiment je retrouve le même jeu qu'avec mon acoustique et je peux la jouer, je la joue sans la brancher quasiment parce qu'elle projette à mort et quand je la branche le son il est fabuleux et je joue, c'est une guitare que je peux me permettre de jouer comme je joue mon acoustique sauf que du coup je peux travailler des sons, je peux essayer comme j'ai fait quand j'ai fait pour les reprises de Billie Eilish, je me suis marrée, je me suis foutu des reverbs énormes avec la Strymon là, que je vois là, que Étienne utilise aussi.
La Flint, ouais.
Je me suis bien amusée avec la Flint, justement, pour utiliser des reverbs, des trémolos, des machins. Je commence à faire un petit peu l'inventaire de tout ça. Faut que je m'achète un ampli.
D'accord.
C'est la prochaine étape. J'ai jeté mon dévolu sur un Supro très mauvais verbe, qui coûte une blinde, donc c'est pas pour demain, mais j'y arriverai un jour. Mais je pense que je vais attendre de me payer un ampli qui est à la hauteur de la guitare, parce que c'est quand même une super gratte et puis après prochaine étape apprendre à jouer plus avoir un jeu plus électrique j'aimerais
ça
bien
ça sera toujours les deux quand même
je garderai toujours les deux ma Martine de toute façon tu sais le numéro de série il y a ma date de naissance dedans donc je suis pas prête de la lâcher c'est Étienne qui me l'a offerte il y a 5 ans et on a découvert l'autre jour en déménageant pour Londres justement je voulais noter le numéro de série et je regarde à l'intérieur de ma CEO 7 là et je vois qu'il y a toute ma date de naissance à l'envers dans le numéro de série.
C'est le destin, quoi.
C'est fou, non? Génial. C'est incroyable. Et c'était la gratte d'Étienne, en plus. Ouais. C'est lui qui s'était acheté pour lui et qui me l'a offerte un jour. Donc, Donc voilà, donc celle-là, elle bouge pas, elle va nulle part. Elle va nulle part, et j'espère la Gibson non plus. Si je peux me permettre de la garder financièrement, je la garde, quoi. Parce que, de toute façon, là, je la paye pour les 5 prochaines années. Ouais. Donc, vaut mieux pas que...
Pour l'instant, vaut mieux la garder.
Ouais. Vaut mieux que je la garde.
Tant qu'elle a payé.
Exactement. Donc, à moins que je touche le taux et que je rembourse mon crédit tout de suite, mais sinon, je suis pas prête de... Voilà, parce que ça s'achète pas facilement, ce genre de grade, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas papa-maman, quoi. C'est bon, mon cadeau.
La prochaine fois que tu viendras au showroom, tu viendras avec ta 335, et puis voilà. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur le cyberespace pour savoir quand est-ce que vous allez jouer, etc., les dernières nouvelles, alors, le clip, tout ça, c'est quoi le meilleur endroit?
Alors pour le moment, on a laissé en ligne, parce qu'on a changé le nom du coup pour le projet, mais on a laissé en ligne le site de Crossfire, donc crossfireofficial.com.
D'accord.
Je continuerai à mettre des trucs dessus en attendant de refaire un site à terme.
D'accord. Donc, d'ailleurs, parlons de l'éléphant qui est dans la salle, donc Crossfire est mort, c'est ça? Enfin, il n'y a plus de... C'est la même chose, mais avec un autre nom, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'est-à-dire que Crossfire n'est pas vraiment mort, mais Crossfire, ça a toujours été Étienne et moi. On a toujours voulu maintenir ça comme un duo et avoir des musiciens additionnels, des invités, etc. Toute une super équipe d'ailleurs qui nous a entourés, qui nous a suivis depuis 5 ans. Mais on était un peu fatigués de la bataille pour défendre ce projet qui a duré 5 ans, qui était très belle. Mais on avait envie un petit peu de simplifier les choses, on va dire. Parce qu'à la base, c'était nous deux avec deux guitares acoustiques, voire même une guitare acoustique, si tu vois Feathers, je joue même pas. Et on avait envie de revenir à quelque chose de plus simple, plus évident, où c'est juste nous deux, des harmonies vocales, ce qu'on a fait sur le nouveau single. Il y aura toujours des musiciens additionnels, il y aura toujours des guests de temps en temps sur des concerts, mais pour pouvoir survivre en fait dans ce milieu qui est quand même difficile, on a eu envie de simplifier les choses pour pouvoir partir en tournée, mais tous les deux, faire ça plus simplement. Donc Crossfire existe toujours de toute façon, puisque c'est nos compos, et c'est nous deux, et c'est deux guitares, et c'est deux voix, quoi, à la base. Donc oui, c'est...
L'ADN reste le même.
Bah, on revient à l'équivalent de ce qu'on a fait sur le premier EP. C'était juste nous deux avec deux guitares. Mmh. C'est pareil. Donc, sur l'album, on a eu des invités, mais voilà, ça reste la même chose. Par contre, voilà, c'est un nom qui est très... Comme je te l'ai dit, je ne cache pas, c'est un nom qui est très utilisé, qui est très compliqué à gérer, parce que c'était une bonne idée. Hein, on n'arrêtait pas de s'engueuler. On s'est dit, on va s'appeler Crossfire. Mais c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue.
Fausse bonne idée, en fait.
Voilà. Et même si on a beaucoup aimé porter ce nom et porter ce projet... On a envie, 5 ans, c'est un bon timing. Mmh. On a envie de passer, d'avancer sur autre chose et de faire de la musique qu'on aime, telle qu'on a envie de la faire, et de moins se prendre la tête, en fait, sur plein de choses.
Voilà. D'accord, génial. Bah, écoute,
ce que j'allais te dire, à part le site internet, la meilleure place pour nous suivre, ça reste Facebook et Instagram. Mmh. Et donc, c'est simple, c'est nos initiales, AMSG, musique, avec un C, sur Facebook ou sur Instagram, et on nous retrouve directement.
Et ben voilà, facile, génial. Bah écoute, Alison, j'étais ravi de t'accueillir ici au showroom. Et puis je touche du bois. Et puis je souhaite plein de bonnes vibrations pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup, Alison.
Merci à toi, Pierre. C'est toujours un plaisir.
Ciao.
Ciao.
Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder aux vidéos intégrales.